Bonjour à toutes et à tous, c'est Julie, vous êtes bien sur le 94 FM et aujourd'hui on vous propose une édition spéciale présentée par Manuel Perreux.
C'est beau, c'est agréable, moi c'est ma balade phare.
Nous entamons aujourd'hui notre périple en Bretagne, c'est une grande région française, c'est une région qui comporte combien de départements, monsieur ?
Il y a les villages.
Qu'on n'a pas de mémoire.
L'agriculture est en train de crever. Sincèrement, toute production confondue, toute filière.
La rue répond !
Résistance ! De venir de Paris, de Lyon, de Bordeaux, tout le monde sait qu'à Rennes, il se passe quelque chose.
Aujourd'hui, 3 en 1 vous propose un format inédit sur lequel nous travaillons depuis plusieurs mois autour de la relation entre Rennes et ses villes jumelles. Pourquoi ces villes d'Afrique, d'Amérique, d'Europe ou d'Asie se sont unies avec Rennes ? Depuis quand ? Y a-t-il une communauté présente ici et comment vit-elle cette union officielle ? Et qu'est-ce que ces jumelages ont permis de réaliser jusqu'à aujourd'hui ? Pour ce premier numéro, nous avons eu la chance d'assister à la naissance d'un jumelage avec la ville de Diyarbakir, capitale kurde située dans l'est de la Turquie. Un événement qui nous a poussé à aborder en détail une relation assez incomparable. Je suis Manuel Perreux et bienvenue dans Rennes et ses jumelles, épisode 1. Le 11 décembre dernier, nous avons pu assister à l'hôtel de ville à un événement historique, une cérémonie de jumelage. La ville de Rennes a officialisé sa relation avec la ville kurde de Diyarbakir, en Turquie, en présence de nos élus locaux et de l'équipe municipale kurde qui a fait le déplacement pour l'occasion.
İki halkın, Breton halkının ve Kürt halkının dostluğu, beraberliği ve birlikte yürüttükleri mücadele mirası açısından da bizi çok onurlu, gururlu kıldı bu akşam.
L'accueil chaleureux qui nous a été accueilli ici à Rennes nous a rendu beaucoup d'honneur. Cet honneur que l'on accepte en notre nom, mais surtout au nom du peuple de Diyarbakır, que ce soit le peuple kurde ou le peuple breton, nous savons que nous allons ainsi bâtir une histoire de lutte en commun.
En signant notre accord de jumelage, nous mêlons encore plus profondément nos racines et nos destins. Et je dois dire que cela représente une fierté immense et beaucoup d'émotions que Rennes soit la première ville au monde avec laquelle vous nouez une relation de cette nature.
Il s'agit du 14e jumelage de Rennes avec une ville étrangère et le premier depuis 2002. Mais celui-ci est particulier car il entérine une histoire de longue date entre les communautés bretonnes et kurdes et arrive au bout d'un processus compliqué par le contexte politique. Historiquement, les Kurdes vivent sur un territoire réparti entre la Turquie, l'Iran, l'Irak et la Syrie, 4 pays où leur population se compte aujourd'hui en dizaines de millions et est particulièrement discriminée. En Turquie notamment, les Kurdes sont majoritaires dans tout le sud-est mais dépendent du pouvoir national, qui mène une politique très répressive face à leur demande d'autodétermination. La lutte pour le Kurdistan a mené à un conflit armé qui a duré pendant des décennies entre l'armée turque et notamment le PKK. Mais sur long terme, l'action politique au niveau local a porté ses fruits. En remportant des élections, en gérant de plus en plus de mairies, les élus kurdes ont gagné en légitimité. L'État turc a fait arrêter et destituer les maires pro-kurdes jusqu'en 2024, où suite à des accords de paix, des élections municipales ont eu lieu. Dans la capitale de la région, Diyarbakir, 2 commères kurdes ont été élus et la ville prend doucement son autonomie. Mais elle a fortement besoin d'un soutien extérieur, ce qui explique aujourd'hui ce jumelage.
Tony Rublon, le président des Amitiés kurdes de Bretagne. Des événements historiques, événements qui s'ancrent dans une longue relation entre les deux villes. C'est pas une nouvelle coopération, c'est une formalisation d'une coopération technique qui existe depuis très longtemps, mais qui là prend la forme d'un réel soutien politique. C'était la demande des commères d'avoir en premier lieu un soutien politique et des coopérations techniques évidemment. Mais le principal soutien était vraiment de l'ordre de l'engagement de la municipalité auprès des commères et donc auprès du DEM Parti. Il remonte à 1978 en fait, c'est le premier maire kurde qui s'appelle Medizana qui a été élu à Diyarbakır justement, et qui suite à des risques de destitution avait fait un appel à plusieurs villes en France, y compris la ville de Rennes, à un soutien qui était à la fois, encore une fois, un soutien politique mais aussi un soutien matériel. Et Edmond Hervé avait à ce moment-là répondu et avait envoyé du coup des bus en soutien à Diyarbakır et avait apporté clairement son soutien politique aux élus. Et donc cette coopération, elle démarre à ce moment-là, il y a plus de 40 ans en fait. Et ensuite, elle a pris différentes formes, mais elle s'ancre vraiment sur un temps long. C'est ça qui est très important dans cette relation très particulière entre les deux villes.
Femi, de l'association Amara CDKR, je fais partie de la commission Relations extérieures. Très ému et très content d'arriver à ce jumelage entre Rennes qui est vraiment une ville historiquement très proche des Kurdes et de la ville de Diyarbakir, notamment depuis les années fin 70, notamment en 79. Je suis né au Kurdistan de la Turquie et je suis arrivé en France dans les années 80, 88 plus exactement, étant jeune garçon. À partir de 91, 12, 13, par là, il y a eu beaucoup d'immigrés kurdes qui sont venus directement à Rennes, qui n'ont même pas essayé d'aller dans d'autres villes. Ouais, il y a quand même 400 à 500 familles kurdes. Nous, on compte à peu près 2000 Kurdes sur Rennes et alentour.
Flavie Boukenoufa, je suis adjointe à la maire de Rennes et je suis déléguée aux relations internationales. Les commères de la ville n'ont pas toujours pu rester à leur place, ils ont été destitués, voire emprisonnés. Nous les avons soutenus à distance ces dernières décennies. Et donc dès qu'ils ont été réélus, ils nous ont contactés, nous avons échangé et ils nous ont sollicités pour officialiser ce jumelage qui avait beaucoup de sens pour eux comme pour nous. C'est un jumelage classique maintenant qu'on le met en place et donc il n'est pas plus compliqué. Aujourd'hui, on a travaillé ensemble sur différentes séquences et ça a été plutôt très fluide. Nous avons beaucoup de valeurs communes, beaucoup d'orientations communes et donc c'est finalement une coopération qui se dessine très rapidement. Ça va être la mise en place possible d'une coopération officielle, donc avec la venue de délégations de Diyarbakir plus régulières et puis peut-être le départ de délégations rennaises dans l'avenir.
Suite à cette cérémonie, j'ai voulu en savoir plus sur la filiation entre les populations bretonnes et kurdes et comprendre ce qui les réunit si profondément.
Gaël Denis, je suis breton, né à Vannes en 1969, ce qui me fait 56 ans. Je suis vice-président des Amitiés kurdes de Bretagne depuis bientôt 25 ans. Cette association, on a réussi à la résumer en une phrase qui, moi, me donne l'impression qu'elle explique tout. Les Amitiés kurdes de Bretagne sont là pour défendre les droits politiques et culturels des Kurdes, ici et là-bas. Souvent, c'est assez difficile de pouvoir définir ce qu'on fait dans sa globalité parce qu'on est ce que j'appelle, moi, une petite grande association. C'est-à-dire, on a la chance d'avoir beaucoup d'adhérents, mais tout compte fait, si on regarde les gens qui sont actifs au quotidien dans l'association, on est forcément une équipe beaucoup plus restreinte. Cette situation nous permet quasiment, car on en est des adhérents généreux, de pouvoir quasiment nous autofinancer. C'est-à-dire, en gros, c'est clair qu'il y a toujours eu une envie claire de la part du président fondateur, qui est André Métayer, tout simplement d'avoir cette gestion saine d'une association, justement pour avoir la liberté de nos actions et des propos. Après, on n'est jamais contre des aides, des subventions, parce que nos actions réclament forcément un peu de moyens aussi quand il faut, puisqu'il faut voyager là-bas, avoir des frais de traduction, payer des billets d'avion. Voilà. L'association existe depuis 1994, on est à quelques décennies d'existence et d'action. Ça a commencé par souvent des choses très prosaïques. D'abord, ça a été un voyage fondateur là-bas en 1994, suite à la rencontre de jeunes étudiants bretons du syndicat d'Azonte, qui dans les années 90 était un syndicat qui mettait en avant leur bretonitude. À un 1er mai, on rencontrait la communauté kurde de Rennes et sont créés des liens forts et qui a amené, à la demande des Kurdes, d'envoyer des gens de la société civile ici à Rennes sur le terrain dans les années 90, qui était une période très dure là-bas, de répression de l'État turc envers les militants kurdes, d'aller observer les élections en 1994. Et de cette, ce qu'on appelle délégation dans notre jargon, c'est-à-dire l'envoi de gens de la société civile d'ici, là-bas, a découlé directement vers l'idée, le besoin de créer une structure sous forme associative pour continuer ce soutien à la cause kurde. Si on remonte à ces années-là, la communauté kurde de Rennes connaissait de sérieux problèmes concernant l'obtention de papiers ou de cartes de séjour, de reconduite à la frontière. Et c'est vrai que ce qui a resserré aussi énormément les liens entre les Amitiés kurdes de Bretagne et la communauté kurde de Rennes a été tout simplement un soutien auprès des familles quand l'un de ses membres était sous le risque d'être conduit à la frontière. Après, il y avait aussi l'idée de relayer, de faire savoir autour de la problématique kurde, majoritairement les Kurdes de Turquie, puisque c'est là où il y avait la plus grande urgence. Et donc, ça a amené à envoyer des délégations, de former des délégations à la demande des organisations kurdes en Europe, la plupart du temps pour observer les élections, puisqu'il y avait un réel problème démocratique à l'est de la Turquie, où souvent les gens pouvaient être empêchés par la police, l'armée, ou des protecteurs de villages, milices armées par l'État turc, d'aller voter. Et puis, il y avait aussi quelque chose qui nous tient à cœur, c'est d'être présent pour le nouvel an kurde, qu'on appelle en kurde le névrose, ce qui veut dire le nouveau jour. Et c'est le 21 mars, parce que les Kurdes considèrent que le jour du printemps, ce qui est l'équinoxe de printemps, est le début de la victoire de la lumière sur l'obscurité, ce qui est très symbolique. Alors le névrose a été interdit pendant de nombreuses années par les autorités turques, énormément réprimé aussi. Et le fait qu'il y ait une présence d'étrangers, d'Européens, qui venaient de partout en Europe, Italie, Danemark, Allemagne, Espagne, permettait d'avoir des observateurs. Déjà de rendre compte, mais aussi des fois d'éviter certains conflits. Étonnamment, il y a toujours eu des Kurdes qui sont venus se réfugier en Bretagne. Même ici, à Rennes, on nous parlait de Kurdes qui étaient déjà arrivés au milieu des années 70. Ce qui est intéressant, c'est que l'émigration suite à la répression, alors le coup d'État de 1980 a forcément sonné le glas de toute espérance démocratique en Turquie. Déjà, être un militant de gauche quand on est turc, c'était dangereux. Mais imaginez ce qu'il en était pour être un militant kurde et de gauche. Donc, à partir des années 80, il y a eu énormément de Kurdes qui ont fui la Turquie vers des pays comme l'Allemagne, qui était un pays historiquement proche de la Turquie, mais aussi dans tous les autres pays d'Europe et donc en France. Et étonnamment, Rennes et la Bretagne a été une terre d'accueil au-delà de toute espérance pour les Kurdes. C'est des questions que j'ai posées en disant beaucoup de jeunes Kurdes que je connais bien, qui sont des amis, qui dans les années 90-2000 arrivaient à Rennes, alors qu'ils avaient déjà, en arrivant en Europe, vécu dans des grandes villes européennes comme Vienne, Berlin, Amsterdam. Et je leur demandais, mais pourquoi vous venez à Rennes particulièrement? Il y aurait peut-être plus d'opportunités dans ces grandes villes. Et c'est avec grande joie que je me suis entendu répondre en disant, dans toutes ces villes-là, on s'est trouvé souvent considérés comme étant des étrangers. Et en arrivant à Rennes, c'était la première fois où on arrivait par solidarité familiale, hein, il faut le dire. C'est-à-dire, forcément, quand il y a un oncle qui est déjà installé, c'est beaucoup plus facile de venir ici. Mais comme me le disait Mahmoud Aydin, il dit, quand je suis arrivé en Bretagne, c'est la première fois où on ne m'a pas regardé comme un alien. Voilà, c'est un endroit où je pourrais faire ma vie et militer et avancer.
Argurdet de chom pel de ce grace, quand j'étais nébé, n'a clé avec homs de un dut ses héros, qu'à couscous des stomons pelzo, vide au Frankis, PV fait en Irak, en URSS, en Syrie, Iran, en Turquie, et vel juste à Goudarid en Turquie, bete garzunement, wak et droit d'obarcon à Yis. Aries Kurt, Wakedroit d'Agana et Kurt.
Vous venez d'entendre une émission en breton diffusée sur RKB en 2019 qui mettait à l'honneur la cause kurde. Comme l'explique Gaël Leni, les ressemblances entre les deux cultures sont plurielles et assez surprenantes.
Moi j'ai le sentiment que les Bretons et les Kurdes partagent le même sentiment. Je vais faire référence à une chanson de Dan Arbaz qui est chantée en anglais mais qui explique bien l'idée. les Kurdes comme les Bretons ne sont pas forcément attachés au territoire, à la terre, à la possession d'une nation. Je crois que l'idée des Kurdes et des Bretons, le plus important, c'est la culture et la langue. Et dans la chanson de Dan Arbras, qu'il a écrit en anglais, dit « border of sand, border of salt ». Ce qui veut dire « les frontières, c'est du sable et du sel ». Alors que les Kurdes, je pense, ont jamais décidé de faire la guerre pour un territoire, mais ils ont fait la guerre où ils se sont défendus, autodéfendus, pour une culture, pour leur culture. Ils ne demandent que le droit d'être kurde, de pouvoir parler kurde à leurs enfants. Toute négociation pourrait arriver à un terme si on acceptait ce simple fait-là. Je trouve sincèrement que nous avons des... au travers de la musique, par exemple, au travers... Dans la musique, c'est des instruments que nous avons très certainement en commun ou que nous partageons maintenant. Ils ont une bombarde. Voilà, qui est microtonal. Alors ça donne des choses un peu bizarres. Déjà, la bombarde ici en Bretagne, c'est un peu particulier. Nous, on avait le coupe-cause, c'est-à-dire le coupe-cause, c'est le biniou-cause et la bombarde, qui était l'instrument des fêtes en particulier. Hein. Le coupe-cause, c'est ce qui permet de faire le plus de bruit sans avoir d'électrification. Bah, là-bas, ils ont Zorna, Dahol, c'est la bombarde kurde, et ils ont le tambour à deux pots. Et le daol, le tambour à deux pots, commence à être de plus en plus utilisé par les musiciens traditionnels bretons, puisqu'ils ont découvert que c'était, par exemple, pour les bagades, ils l'utilisent aussi énormément, puisque c'est une percussion qui est faite pour défiler, pour marcher, pour être en extérieur. Alors, c'est des détails, hein. Il y a la musique, des fois dans la langue. Moi, je me suis formé au breton il y a une dizaine d'années maintenant. Alors, il faut toute raison garder, hein. Il faut juste comprendre que ce sont des langues indo-européennes et tout compte fait, nous partageons un ADN commun au niveau linguistique. Par exemple, en kurde, quand on compte de 1 à 5, c'est yek, do, se, char, pench. Et en breton, un andao, tri, pevar, pemp. Voilà, pas même branche, mais même racine.
C'est aussi ce que m'avait détaillé Fémir lors de la cérémonie de jumelage.
On se retrouve un peu dans le même contexte d'une lutte pour préserver une culture, une langue qui, par exemple, le breton aussi, dans les années 80, par là, où, et donc ce qui fait qu'on se retrouvait dans une lutte à peu près similaire, même si c'était pas dans les mêmes contextes.
Et avec ces nombreux points communs, il y a aussi une volonté de partager des savoir-faire avec la population kurde en Turquie.
C'est un travail qu'on fait depuis, avec les Amitiés Kurdes de Bretagne depuis quelques mois, de mettre en relation toutes les associations culturelles, de chant, de danse, de pièces de théâtre, d'entraide, puis de coopératifs qui rassemblent notamment les femmes vivant seules ou vivant avec enfants. Donc, ce qui fait que cet échange... C'est sûr que ça va rapprocher, mais déjà il y a une similarité dans l'aspect organisationnel. Ça peut être culturel et puis ça peut s'élargir parce qu'on avait une délégation aussi qui s'occupait à la ville de Diyarbakır de tout ce qui est de tri de déchets, de recyclage, tout ça. Comme l'ont rappelé Madame Apéré et les commères d'Amed, il y a une collaboration qui s'est mise en place justement parce que Rennes techniquement est très très avancée par rapport à là-bas où justement il y avait quand même un massacre écologique et que maintenant Amed, je veux dire, il commence à mettre en place des petits regroupements, des petites associations pour le collecte des déchets, pour le tri, pour pouvoir ouvrir des espaces de jardinage, des espaces de culture, notamment pour les femmes vivant seules ou pour des enfants qui sont au foyer ou des enfants qui sont handicapés. Et c'est vrai qu'ils étaient très contents en début de semaine, les camarades qui étaient venus d'Amed, de se retrouver dans un endroit où on a un peu plus de moyens et beaucoup plus de techniques et de solutions. La ville de Rennes, elle est vraiment très très avancée là-dessus et de pouvoir capter certaines choses pour pouvoir les reproduire là-bas.
C'est touchant parce que j'ai rencontré la communauté kurde en 2001 grâce aux Amitiés kurdes de Bretagne On va dire que 25 ans plus tard, je suis salué par des jeunes femmes que j'ai connues enfants, quoi. C'est toute une génération. C'est celle de l'exil. C'est toujours la même histoire. Au départ, on vient, on se dit, c'est momentané, ça va passer, on va pouvoir rentrer au pays. Malheureusement, le drame des Kurdes, c'est que depuis plus d'un siècle, c'est jamais le bon moment. C'est le plus grand peuple sans État au monde, mais partagé entre quatre pays qui sont la Turquie, l'Iran, l'Irak, la Syrie, et souvent dans des pays qui étaient peu démocratiques, et que pour les Kurdes, la vie a été surtout résistée. Et donc, quand les gens sont arrivés ici, c'est qu'il fallait partir de là-bas. Hein. Dans les années 90, on pouvait très rapidement être arrêté par des gens qui n'avaient pas d'uniforme, mis dans une voiture sans plaque d'immatriculation, et on ne vous revoyait plus jamais, quoi. Donc ça sous-entendait torture, exécution extrajudiciaire et disparu. Donc les gens sont venus s'installer ici et puis il faut continuer à vivre. Donc on commence un travail, on trouve une compagne, on fait des enfants qui commencent à vivre les deux cultures. Mais l'histoire des Kurdes, je pourrais paraphraser le grand-père d'Iner Salem qui avec beaucoup d'humour lui disait « Tu sais mon petit-fils, les Kurdes ont un passé tragique, un présent douloureux, mais heureusement, ils n'ont pas de futur. » C'est-à-dire, en gros, les crises font qu'on a des vagues comme ça de Kurdes qui arrivent. Il n'y a pas eu si longtemps, c'était les Kurdes de Syrie qui arrivaient sur Rennes et très soutenus par la solidarité de la communauté kurde. Personne n'est laissé de côté à la rue. Les gens se cotisent pour qu'un appartement soit trouvé ou un hôtel payé pour des jeunes gens ou un appartement trouvé pour une famille. Voilà, ça c'est clair. Donc oui, on a vu les choses changer. On a vu des Kurdes, en fonction des crises et des chocs, arriver à Rennes. L'État turc sait absolument ce qu'il fait. Il a très bien compris qu'une association comme la nôtre, qui avait créé des liens forts avec plusieurs municipalités pro-kurdes à l'est de la Turquie, s'était coupé la courroie de transmission. Et moi, je suis pas retourné à Diyarbakir pendant à peu près 7 ans. J'ai voyagé partout ailleurs dans le Kurdistan, mais pas à Diyarbakir. Les organisations en Europe nous déconseillaient d'y aller. Il y avait eu quelques exemples de journalistes qui avaient été arrêtés là-bas, tout simplement, et qui avaient servi de monnaie d'échange. Ils disaient, n'y allez pas, puisque tout compte fait sur le terrain, on est décapité. C'est-à-dire tous les gens qu'on connaissait, les liens, tout ce qu'on avait construit, les gens ont été virés, embastillés. C'était quasiment impossible de pouvoir travailler. Voilà ce qu'a été la réalité de Diyarbakir pendant très très très très longtemps. C'est que le recensement parfois donnait à peu près 800 000 habitants à Diyarbakir, alors qu'il y avait déjà 1 100 000, 1 200 000. Vous voyez le différentiel entre la dotation de l'État pour 800 000 personnes et 1 200 000. Ces équipes municipales, quelles qu'elles soient, malgré les problèmes, toutes les misères qu'on leur a faites, puisqu'ils étaient sous le microscope de l'État, n'avaient qu'un seul et unique but, essayer de soulager la peine, souvent, de gens qui étaient heureux dans leur village et qui ont été chassés par l'armée, quoi. Et il fallait encaisser ça aussi, quoi. Mais il y a une réalité aussi, c'est que les Kurdes savent qu'ils sont Kurdes maintenant. Souvent, on a posé la question de, quand le PKK a déclaré dans le cadre des négociations de paix qui ont lieu actuellement, qu'il se dissolvait, ça semblait comme une défaite. Et tout simplement, les Kurdes, quand on est allé là-bas au printemps de l'année dernière, a une réponse que j'ai très bien entendue parce que c'est ce que je pensais. Le PKK était là pour réveiller les consciences et dire aux gens qu'ils étaient Kurdes et qu'ils avaient des droits. Je pense qu'ils pouvaient se dissoudre maintenant, tout simplement parce que les gens sont bien au courant qu'ils sont Kurdes et qu'ils ont des droits et qu'ils sont prêts à les défendre. On a entendu parler de ce jumelage, justement, cette dernière délégation en mai 2025, quand on était dans le bureau de la maire à Diyarbakir, qui nous a expliqué « Nous sommes prêts pour un jumelage. » Mais le souci, c'est que nous avons aussi d'autres prétendants, et des prétendants qui sont bien mieux dotés que Rennes. Et elle dit « Nous ne sommes pas contre le polyamour, mais disons que nous avons une vraie histoire d'amour avec Rennes. » Et si nous devons signer notre premier jumelage, au vu de notre histoire commune, des liens qui nous tiennent, il ne peut pas être autrement que de marier Rennes à Diyarbakir pour un premier jumelage pour la ville de Diyarbakir. Et l'autre ville, elle nous dit, c'est Zurich. ce fut un moment où nous avons eu le sourire, tout simplement, en se disant « Ok, je pense que pour la mairie de Diyarbakır, c'est la nécessité aussi d'avoir des soutiens politiques, des liens et des chambres d'écho. » Et c'est vrai que ce type de jumelage vont permettre de mettre en place, même si l'État turc n'a pas encore ratifié l'accord de jumelage de leur côté, mais ici c'est fait. Ce que la mairie nous propose de prendre une place pleine et entière dans le comité de jumelage, très certainement avec les Kurdes, ça peut être ouvert à d'autres personnes. Mais comme disait Nathalie Appéré, quand elle nous a annoncé qu'il y aurait la signature de la part de la ville de Rennes de l'accord de jumelage, souvent les jumelages vivent fort, vivent moins fort, parfois meurent. Mais en tout cas, je suis sûr qu'ici, avec la communauté kurde et les amitiés kurdes de Bretagne, on est sûr que le jumelage sera pleinement vivant et enrichissant. Je pense que c'est aussi un jumelage qui peut être très enrichissant pour les deux villes. Déjà, je le pense au niveau de la culture. Rennes est une ville de culture. Il n'y a pas plus ville de culture que Rennes. Avec, un peu comme Diyarbakır, exactement la question de la culture bretonne dans sa spécificité. Ce qui est exactement la même chose à Diyarbakır. Mais Diyarbakır a une scène artistique, musicale, artistique, foisonnante, très certainement issue d'une nécessité de la lutte et qui est très intéressant. Moi qui connais bien pas mal d'artistes à Diyarbakır, je serais très content de voir ces artistes venir à Rennes et se confronter à des artistes rennais et que les Rennais fassent exactement le même chemin juste pour se découvrir et justement s'enrichir des expériences de chacun. Courant mai, on est en train d'envisager de créer un fest-noz bretonno-kurde avec des musiciens d'ici, les Bretons, mais des Kurdes d'ici, et puis des Kurdes de là-bas, pour que les Rennais, tout simplement, puissent venir partager ce moment-là, c'est-à-dire de la rencontre de deux cultures qui sont très éloignées par la distance, mais assez proches par l'esprit. Moi, je dirais ça, rien n'arrête un peuple qui danse.
C'est la fin de ce premier numéro de Rennes et ses jumelles. Merci à toutes les personnes qui ont participé à cette émission, à l'association Amitié Kurde de Bretagne, aux équipes de la ville de Rennes, la Maison Internationale de Rennes, et aussi particulièrement à l'association Dastum qui m'a aidé pour les archives radio, et à Pia Colline qui m'a gentiment transmis sa chanson que vous entendez en ce moment, Dorbidor, et enfin à l'équipe de 3 en 1 pour la création de ce format. Cet épisode a été entièrement écrit et réalisé par Manuel Perreux, j'espère que ça vous a plu, et je vous souhaite une excellente journée sur Canal B. Dorbidor, çarmıdor, digerimli gündan, digerim berçeman. Barzakek hayalan, barzakek hayalan. Azil du listikan, azil du hanekan. Dorbidor, çarmıdor, digerim vançiyan. Dorbidor, çarmıdor, digerimli serevran. Barzakek خيالم ازل دو تایر بازان بارزکک خیالم
دايره بوزن نور بدون چاره مدون دگرم وانچيا نور بدون چاره مدون دگرم کردستان پارسکک خیالان از لدو دايره بوزن پارسکک خیالان از لدو دايره بوزن نور بدون چاره مدون دگرم وانچيا نور بدون چاره مدون دگرم پارسکک خیالان از لدو تیره بازان